pour 15 minutes et en plus il a l'horloge.
Merci. J'avais envisagé de commencer par des propos qui en fait font écho aux conclusions de l'excellent orateur à laquelle je succède. Je pense qu'il n'y a pas épreuve plus lourde depuis la création de la Cour pénale internationale que l'épreuve qu'elle va traverser du fait du ralliement de la Palestine à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas épreuve plus lourde. Ça va être un test de vérité absolument terrible. C'est une responsabilité immense qui pèse sur les épaules de la procureure, gigantesque, parce que dans les deux cas, si elle passe d'un examen préliminaire à une enquête, tout le monde la célébrera, une partie de l'humanité la célébrera, et la Cour pénale internationale retrouvera des couleurs, et tout le monde aura oublié les procès qui sont faits, avec quelques raisons d'ailleurs, à la Cour pénale internationale, en manque d'indépendance, en soumission aux politiques. On dira, ça y est, cette institution internationale faite pour l'humanité s'est totalement émancipée des agendas géopolitiques. On dira, si une enquête est ouverte, enfin la Cour pénale internationale s'universalise et cesse d'être une Cour pénale internationale dédiée, disent certains Africains, de façon obsessionnelle, au seul crime qui serait commis en Afrique. Et enfin, on dira, un des conflits qui au monde cristallise le plus de combustible et de carburant en termes d'horreur, de catastrophe humanitaire, et est instrumentalisé par certains pays arabes ou par certaines communautés, aussi au nom de la lutte, aussi au nom du terrorisme, il ne faut pas l'oublier. Donc ça serait absolument formidable. Et à l'inverse, si elle ne le fait pas, ça serait vécu comme un acte de soumission, un acte de mise sous tutelle de la Cour pénale internationale par les politiques. C'est ça l'enjeu. Donc c'est un enjeu extrêmement lourd, et on comprend évidemment que Mme Bessouda, que nous connaissons ici, prenne son temps, et elle va prendre son temps. Mais il ne faut pas non plus que le temps soit un alibi pour, au bout d'un moment, oublier quelque chose qui est au cœur de nos discussions aujourd'hui, et qui est la chose suivante. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie entre les victimes ou une graduation, une indexation entre la souffrance. Mais qui peut douter de l'extrême légitimité du droit des victimes palestiniennes à avoir accès à un juge? Personne. Même si les victimes palestiniennes, permettez-moi cette expression qui n'est pas cynique, mais dans la bourse des victimes ont perdu un peu de couleur ces dernières années, et ne sont plus au firmament de ce qu'elles étaient il y a 15 ou 20 ans. Parce qu'il y a des mouvements dans le monde qui fait que dans la hiérarchie des indignations, certaines victimes, à certains moments, sont en pole position et puis à d'autres moments disparaissent un peu. Les victimes palestiniennes ont un peu disparu pour des tas de raisons géopolitiques sur lesquelles on pourrait s'étendre, et l'après-midi n'y suffirait pas. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est un consensus très fort au niveau de la société civile internationale, des ONG, de beaucoup d'institutions internationales, pour dire que ce n'est pas simplement un test de vérité, de crédibilité, d'indépendance pour la Cour pénale internationale. Les victimes palestiniennes ont droit à avoir accès à un juge, parce que c'est au cœur de la philosophie de la Cour pénale internationale. Et en même temps, à front renversé, de façon très paradoxale, une asymétrie dans le rapport de force entre la Palestine et les États les plus puissants de la planète, qui est maximal. Voilà. J'étais, il y a un mois, à Ramallah, invité par des ministres, et je salue avec beaucoup de plaisir M. l'ambassadeur récemment nommé. J'ai rencontré un certain nombre de ministres. Le scepticisme est immense. Il y a très peu de gens en responsabilité aujourd'hui à Ramallah qui croient sérieusement qu'une enquête va être ouverte rapidement. Personne ne le croit. Et ils ont raison de ne pas le croire. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont raison de ne pas le croire parce que l'état du monde aujourd'hui, et je vais être très sincère avec vous, ne sert pas la cause palestinienne. Parce que le terrorisme donne des arguments à toute une série d'acteurs politiques pour criminaliser les victimes palestiniennes et certains acteurs palestiniens. Parce que le Hamas met de l'huile sur le feu dans sa radicalité et devra rendre des comptes aussi des crimes de guerre qu'il a commis, pas simplement dans une obsession de la symétrie, mais parce qu'il y va aussi de la crédibilité de l'action judiciaire. Donc, consensus de la société civile internationale, de beaucoup d'acteurs politiques qui, à bas bruit, disent « mais évidemment que ces victimes doivent avoir accès à un juge, ça suffit, parce que c'est une condition de la réconciliation, parce que c'est une condition de la paix, parce qu'il n'y a pas de restabilisation dans cette partie du monde si un jour la justice ne s'exprime pas d'une façon ou d'une autre. » Et en même temps, cette asymétrie structurelle terrible qui pèse, et on sait que les Américains ont dit assez récemment à l'autorité palestinienne « ne faites pas d'activisme pour faire pression sur Mme Bensouda, sinon on va élargir la liste des organisations terroristes à un certain nombre d'autres organisations palestiniennes et vous verrez bien ce que vous allez voir. » Voilà la réalité aujourd'hui politique de ce rapport de force. Alors, il ne s'agit pas non plus de se rouler dans la résignation ou dans le pessimisme, mais c'est important de dire les choses comme elles sont, étant observé que, comme ça a été rappelé il y a quelques instants, des pas ont été accomplis. Il y a eu ce vote à l'Assemblée générale, plus personne ne discute du fait que la Palestine est un État qui a la capacité juridique, ça c'est plus discuté, et plus personne ne discute du fait que parmi les examens préliminaires qui sont aujourd'hui à la Cour pénale internationale, il y a un certain nombre de pays, l'Afghanistan, la Colombie, la Géorgie, la Guinée, l'Irak, le Nigeria, l'Ukraine et la Palestine. Sans faire de hiérarchie et sans violer ce que j'ai dit tout à l'heure, parmi ces pays, est-ce qu'il n'y a pas un pays dont on se dit, il saute aux yeux, que ce pays-là, peut-être plus que d'autres, devrait passer du statut d'examen préliminaire au statut d'enquête? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des escadrons de la mort en Colombie qui ont commis l'ignoble. En Afghanistan, c'est des crimes de guerre, mais on sait ce qui va en advenir. C'est des frappes des Anglais qui ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Même chose en Irak, là, les pressions vont être gigantesques, en Ukraine, au Nigeria. Enfin, et quand on voit la liste des pays sur lesquels il y a une enquête et des procédures, Ouganda, République démocratique du Congo, Darfour, enquête suspendue parce que les Nations Unies ont refusé leur collaboration à la Cour pénale internationale dans l'exécution des mandats d'arrêt contre Béchir, il faut le rappeler, République centrafricaine, Kenya, Libye, Côte d'Ivoire, Mali. Alors évidemment, l'Union africaine, en octobre, s'est réunie et a dit « mais on veut bien nous adhérer à un système multilatéral de justice pénale internationale, mais pourquoi que les Africains ?» Donc le jour où où la Palestine passe en enquête, ça tue tout l'argument utilisé cyniquement par un certain nombre de dirigeants africains pour se dédouaner de leurs crimes, pour se déresponsabiliser, et ça fait disparaître l'alibi qu'ils utilisent cyniquement pour continuer à commettre des crimes et pour se mettre à l'abri de la justice pénale internationale. Donc on voit bien que ça dépasse la Palestine. La Palestine, c'est un enjeu, parce que si la Palestine est sous enquête, c'est la justice pénale internationale qui va s'universaliser, qui va gagner en crédibilité et qui va enlever sous le pied d'un certain nombre d'immenses salopards de la planète des arguments pour refuser de coopérer avec la Cour pénale internationale ou pour refuser de juger leurs propres criminels. Donc les enjeux sont absolument gigantesques et comme je le disais il y a quelques instants, c'est sans doute l'épreuve la plus importante, la plus lourde qui pèse sur la Cour pénale internationale. Alors dans cet ouvrage, moi j'ai eu la tâche de rappeler l'histoire de la Cour pénale internationale et l'oralité, vraiment ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je lise ce que j'ai écrit puisque vous l'avez entre vos mains. Mais deux, trois choses intéressantes. La Cour pénale internationale, ce qui est sa marque de fabrique par rapport aux deux juridictions précédentes, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour Rwanda, c'est le droit des victimes, justement. C'est-à-dire que les victimes ont pris une place protégée dans la Cour pénale internationale qu'elles n'avaient pas dans les deux tribunaux ad hoc. Ce qui renforce l'argument que j'évoquais il y a quelques instants, s'agissant du fait qu'une enquête judiciaire s'ouvre relativement aux crimes commis en Palestine. Deuxième argument important, et il faut le souligner, la Cour pénale internationale souffre d'être à la fois le juge le plus légitime, le plus indispensable, le plus célébré, le plus impuissant, puisqu'il n'y a pas de police internationale. Et comme il n'y a pas de police internationale, si demain, dans 2-3 ans, il y a des mandats d'arrêt contre des responsables de Tsahal, de toute façon, la sanction sera le fait que les dirigeants militaires de Tsahal seront condamnés à terminer leur retraite éternellement en terre israélienne sans pouvoir circuler. Ça faire ça, la seule sanction possible des mandats d'arrêt qui seraient délivrés. Mais ce qui rend aujourd'hui l'attente des Palestiniens encore plus grande, comme j'ai pu le voir à Ramallah, différents contacts, mais aussi à Jérusalem-Est, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un espoir que les mécanismes de compétence universelle viennent au secours des victimes palestiniennes. Mécanismes de compétence universelle, vous savez, c'est ce qui fait qu'un juge national, français, anglais, peut intercepter quelqu'un qui est présumé responsable de crimes internationaux qui passe sur son territoire. Moi, j'avais essayé de lancer ça il y a 15 ans, s'agissant de l'abbé Venceslas Mounier-Chacun, vous vous souvenez, qui distribuait des hosties sereinement et tranquillement dans une petite église d'Ardèche. Eh bien, tous ces mécanismes de compétences universelles ont été mis par terre. La loi belge, du fait de ses excès, et j'avais condamné ses excès, elle était partenaire de son malheur, a été abolie. La loi espagnole, tout le monde se gondole, parce que ça ne donne plus rien, si ce n'est l'immense coup d'éclat de Balthazar Garçon dans l'affaire Pinochet. Et donc, ce ne sont plus des recours. Alors, il y avait un recours en France, qui est les mécanismes de compétence universelle, mais Nicolas Sarkozy avait introduit une loi qui conférait au parquet de Paris, au procureur, le monopole des poursuites, c'est-à-dire que face à une plainte demain pour crime de guerre contre un général israélien, le parquet de Paris a un pouvoir d'opportunité pour dire à l'ONG qui aura déposé plainte, écoutez, non, je ne sens pas trop le truc, votre dossier est faiblard, on ne va pas ouvrir. Bon, François Hollande avait promis d'abolir cette loi. Moi, j'étais responsable des droits de l'homme et des libertés publiques dans la campagne de Hollande, et je dois, à la vérité, de dire que cette promesse n'a pas été tenue. C'est dommage, parce qu'elle mériterait bien d'être tenue, par les temps qui courent, de permettre aux ONG, si demain était identifié le responsable de très graves crimes de guerre, pas simplement israélien, mais ça peut être un dirigeant du Hamas, ça peut être un général russe, de pouvoir agir et de permettre à la France d'être à la hauteur de son destin manifeste, de ses traditions et de ses principes. Mais aujourd'hui, cet outil, malheureusement, nous en sommes privés. Et puis enfin, pourquoi disais-je il y a quelques instants que c'est un test considérable ? C'est que, comme vous le savez, ce qui donne une couleur universelle à la coopération internationale, c'est si le Conseil de sécurité s'empare d'un crime et vote. Mais les mêmes États qui boycottent la Cour pénale internationale, qui lui crachent dessus, qui la discréditent, sont les mêmes qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Donc les saboteurs sont d'un côté et de l'autre en mesure de paralyser le système. Il y a deux États où il y a eu une saisine, c'est la Libye, la Chine et la Russie consentant finalement à dire oui, il y a eu le Soudan qui est un État tellement voyou, tellement isolé. Mais on n'imagine pas à un seul instant que la réponse va venir du Conseil de sécurité s'agissant des crimes commis en Palestine. Alors voilà, le chemin est très long, le chemin est semé d'obstacles. Nous allons, avec nos amis palestiniens et les juristes qui sont vos alliés, continuer à agir. Ça va être difficile. Il y a évidemment... Je le disais il y a quelques instants, un autre spectre qui est celui du terrorisme, qu'on a tous en tête, parce que ça, c'est un ennemi très, très sévère hein, de l'application du droit international à l'échelon universel. Il y a un autre ennemi, c'est quand on veut nous faire croire que toute critique dure contre l'État d'Israël sera assimilable à une forme d'antisémitisme larvé. De ce point de vue, je regrette les déclarations de Manuel Valls il y a quelques jours, comme beaucoup, car je considère que c'est une faute politique qui a été faite ce jour-là. On ne peut pas dire qu'une critique dure de l'État d'Israël, même véhémente, même vigoureuse, soit forcément le masque de l'antisémitisme masqué, même si parfois certains antisémites absolument abominables se cachent derrière la critique d'Israël. Donc il faut aussi être très vigilant, très attentif. Voilà, en tous les cas, je veux redire avec l'ambition de rigueur qui est la mienne, ma solidarité, monsieur l'ambassadeur, avec le peuple palestinien.
Merci beaucoup, Gourdon.